Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par les discussions entre la France et Madagascar sur les îles éparses dans l'océan Indien. Le président malgache Ange Rajoel et son homologue français Emmanuel Macron vont reprendre les négociations sur ces 5 îles au large de Madagascar, présumées riches en hydrocarbures et qui sont administrées par la France et revendiquées par Madagascar depuis 1973. Les deux présidents ont convenu de traiter de cette question non pas par un recours juridique ou dans des instances internationales, mais dans un cadre bilatéral, par la mise en place d'une commission mixte visant à aboutir à une solution consensuelle d'ici juin 2020. Date du 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. La République démocratique du Congo vit ce jeudi dans l'attente du rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi, l'opposant historique décédé en Belgique en février 2017. Et ce, après le report du départ de la dépouille de Bruxelles à destination de Kinshasa, annoncé à la dernière minute mercredi soir. Le corps du père de l'actuel président de la RDC, Félix Tshisekedi, retourne aujourd'hui au pays natal. Idrissa Seydoudia.
Les autorités congolaises ont assuré que tout est mis en œuvre pour rapatrier ce jeudi à 15h GMT à Kinshasa le corps de l'opposant historique Étienne Tshisekedi depuis la Belgique, après l'annulation in extremis pour des raisons logistiques d'un vol privé au départ de Bruxelles mercredi soir. Tout est mis en œuvre pour ramener à bon port la dépouille de son Excellence le Premier ministre ce jeudi 30 mai à 16h à l'aéroport international de N'Djili, a indiqué dans un communiqué le comité de l'organisation des obsèques, communiqué diffusé dans la nuit. Le corps d'Étienne Tshisekedi, père de l'actuel président Félix Tshisekedi, devait arriver ce jeudi matin à Kinshasa, ce qui aurait marqué le coup d'envoi de 3 jours de funérailles.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée, le Premier ministre Kassori Fofana a fait savoir mercredi que les membres du gouvernement sont tous favorables à l'élaboration d'une nouvelle constitution. L'opposition, elle, soupçonne le président Alpha Condé de vouloir briguer un troisième mandat. Magassi Koura.
Le Premier ministre Kassori Fofana affirme avoir posé la question à chacun de ses ministres et leur réponse a été unanime. C'est oui, il nous faut une nouvelle constitution, a-t-il ajouté. Il a dit aussi avoir pris acte de la démission de son ministre de la Justice, Cheikh Sako, pour des raisons personnelles. Dans sa lettre de démission lundi, Sako dit n'avoir pas été associé à la rédaction de la nouvelle constitution. En sa qualité de garde des Sceaux, Alpha Condé, âgé de 81 ans, n'a jusqu'à présent pas annoncé s'il allait ou non se représenter en 2020. Ancien opposant et premier président démocratiquement élu, il a souvent contesté la pertinence de la limitation des mandats. Le 18 mai, la direction de son parti lui a demandé, avant la fin de son second mandat, de doter le pays d'une loi fondamentale votée par référendum par le peuple souverain. Mais le Front national pour la défense de la Constitution, créé en avril par les principaux partis d'opposition, des associations de la société civile et des syndicats, s'opposent à un troisième mandat.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Économie africaine, la ZLEC, la zone de libre-échange continental, projet phare de l'Union africaine en vue de l'émancipation économique du continent, est entrée en vigueur ce jeudi, avec pour but d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici 2022. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'UA, l'Union africaine. La phase opérationnelle doit toutefois être lancée le 7 juillet lors d'un sommet de l'Union africaine à Niamey au Niger, après finalisation d'instruments clés tels que les mécanismes d'arbitrage, la définition des règles d'origine des marchandises ou encore des mécanismes en vue de l'élimination d'obstacles tels que la corruption ou les mauvaises infrastructures. Corne de l'Afrique, plus de 2 millions de personnes, dont près de 1 million d'enfants, sont menacés de famine en Somalie du fait d'une grave sécheresse. L'ONU a lancé un appel à l'aide. De Mogadiscio, le reportage de Mohamed Cheikh Nor, récit de Lionel Gaïma.
Manquant d'eau et de vivres, des dizaines de milliers de Somaliens ont fui leur village ces trois dernières semaines pour se réfugier près de Mogadiscio, la capitale. Jawaro Mohamed est épuisée. Elle est déjà mère de quatre enfants et attend le cinquième.
Après la mort du cheptel, la vie était devenue intenable au village. Et la famille a dû marcher 15 jours d'affilée pour parvenir au camp.
La sécheresse et la perte de moyens de production exposent des centaines de milliers de Somaliens à la famine. Le petit Amina, âgé d'un an, souffre de malnutrition. D'après sa mère, Nima Al-Hassan.
Cela fait 6 mois que l'enfant souffre et cela est dû en grande partie aux difficultés, notamment la sécheresse et le manque de nourriture adéquate.
Une aide d'urgence est nécessaire pour éviter une crise humanitaire, a fait savoir Justin Brady, chef du bureau de coordination humanitaire de l'ONU en Somalie.
Le niveau d'adaptation et de résilience de ces communautés s'est détérioré au cours des dernières saisons. Le gouvernement a accentué la mise en place d'un cadre de rétablissement, mais ces solutions ne seront pas mises en œuvre du jour au lendemain.
Beaucoup doit être fait au niveau local pour prévenir le déplacement massif des personnes, estime pour sa part Mokhtar Hussein, un responsable du ministère somalien des Affaires humanitaires.
Le ministère propose de l'aide et encourage les gens qui peuvent encore tenir pour éviter qu'ils ne quittent leur village.
Une prompte réponse humanitaire avait permis de mitiger l'impact de la sécheresse de 2017 qui avait déplacé près d'un million de Somaliens. L'espoir est que les donateurs seront aussi généreux cette fois-ci.
Merci Lionel Gaïma.
VOA Afrique en direct de Washington.
Afrique du Nord maintenant, en Algérie, le chef d'état-major de l'armée a dénoncé, sans les nommer, ceux qui font perdurer la crise politique, dit-il, par la rumeur et les mensonges. Le général Ahmed Gaïd Salah a exhorté les journalistes mercredi à être au service de l'Algérie. Les précisions d'Irénée Herman Ungo.
Ceux qui tentent à exacerber la situation et faire perdurer cette crise œuvrent sciemment à répandre continuellement les rumeurs, les informations erronées et les mensonges à travers de nombreux médias, empêchant un climat d'entente mutuelle propice, voire un dialogue calme et serein, a déclaré le général Gaïd Salah. Le peuple algérien doit avancer aujourd'hui aux côtés de son armée et faire preuve d'une loyauté totale à la nation, a-t-il poursuivi. Mardi, le général Gaïd Salah avait appelé au dialogue et à des concessions mutuelles pour résoudre la crise. L'option qu'il avait jusqu'ici privilégiée, la présidentielle du 4 juillet, reste de plus en plus incertaine. Les manifestants refusent toute élection organisée par l'appareil hérité du système Bouteflika et réclament au préalable le départ de toutes les personnalités de l'ancien régime et la mise sur pied d'institutions de transition ad hoc pour réformer le système.
Actualité hors d'Afrique pour terminer. Ici à Washington, le procureur spécial Robert Mueller a déclaré qu'accuser le président Donald Trump d'obstruction de la justice n'était pas une option pour son équipe à cause des directives du ministère américain de la justice. Monsieur Mueller, qui enquêtait sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, a parlé publiquement pour la première fois hier de son enquête qui a duré un total de 22 mois, Jean-Roger Bion.
Monsieur Mueller a expliqué qu'en raison des directives en question, un président ne peut pas être poursuivi pour une infraction fédérale tant qu'il est en fonction. C'est inconstitutionnel. Il a pourtant pu identifier une dizaine de cas d'entrave à la justice. En revanche, a-t-il poursuivi, la Constitution prévoit une procédure en dehors du système judiciaire pour mettre en accusation un président en exercice, ce qui a été interprété comme une allusion à l'impeachment ou procédure de destitution d'un président. Bien que ces enquêteurs n'aient pas trouvé de preuves suffisantes pour accuser M. Trump d'une plus vaste conspiration entre sa campagne et la Russie, il a répété une conclusion de son rapport, à savoir que, je cite, « Si nous avions eu la conviction que le président n'avait clairement pas commis de délit, nous l'aurions dit ». Les déclarations de M. Mueller ont immédiatement relancé les appels à entamer une procédure de destitution du président Trump, un sujet qui divise profondément les démocrates. Ce dernier a pour sa part assuré que les propos du procureur spécial ne changeaient rien à son innocence. L'affaire est close, merci, a-t-il réagi dans un tweet.
Et pour terminer, en Arabie Saoudite, la ville sainte de la Mecque se prépare à accueillir des leaders arabes et musulmans pour 3 sommets, notamment une réunion de la Ligue arabe ce jeudi soir, alors que le gouvernement saoudien cherche à serrer les rangs face à son grand rival, l'Iran. Merci de votre attention.